Radio Okapi. Okapi.
Okapi service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, c'est parti pour la deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci à vous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Et merci à tous ceux qui nous écoutent sur www.radiocapi.net. Eh bien, de quoi allons-nous parler dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service? Eh bien, nous allons parler de l'importance du don bénévole de sang. Pourquoi est-il important de faire un don bénévole de sang? On en parle avec Paul Kabamba, chef de division chargé de la formation, recherche et développement au Centre National des Transfusions Sanguines. Monsieur Paul Kabamba, bonjour.
Bonjour, monsieur Robin.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Des questions et préoccupations par rapport au don bénévole du sang, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Vous pouvez poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission au Capi Service. Jean-Claude Ciala, la mise en onde, Marcel Ngombo assure la coordination de cette émission, que réalise Tati Mapoukou au micro, Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien.
Okapi Danse. Okapi Danse, c'est la découverte de nouveaux talents, de nouveaux sons des Congolais d'ici et d'ailleurs. De mercredi à vendredi, à partir de 23h et le samedi à 21h.
Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Nous allons parler du don bénévole de sang. La RDC enregistre un faible taux de don bénévole de sang. D'après les experts, il s'élève à 33% selon les données du Centre National des Transfusions Sanguines. Plusieurs facteurs justifient ces faibles taux de don de sang à RDC, selon nos sources. Par exemple, certains Congolais refusent de faire le don du sang pour raison des croyances, des idées reçues assez répandues dans nos communautés. Certains exigent de plus en plus une contrepartie financière. Alors, quelle est l'importance du don bénévole de sang? Nous avons en ligne, tel que je l'ai annoncé, Paul Kabamba, chef des divisions chargé de la formation, recherche et développement au Centre National des Transfusions Sanguines. Monsieur Paul Kabamba, une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons du don bénévole du sang. Pourquoi il est important de faire cela, de faire un don bénévole de sang?
Bon, en fait, d'abord, on doit chercher à donner la signification du don bénévole de sang. En fait, le don bénévole de sang a son éthique. Donc, quand on fait un don bénévole de sang, ça veut dire qu'on le fait volontairement. On a une responsabilité par rapport à cette acte. On le fait d'une façon altruiste et régulière. En fait, le don de sang permet à ce que les structures de transfusion aient un approvisionnement assez important dans le don de sang, en unité de sang, pour que quand les gens en ont besoin dans les structures de transfusion, que les structures arrivent à donner le sang aux gens qui en ont besoin au moment opportun. Voilà.
Bien, donc voilà, c'est ce qu'on appelle don bénévole de sang, et c'est important, vous avez dit, pour qu'on donne aux gens qui en ont besoin. Alors, nous avons parlé du taux faible, le don bénévole de sang s'élève à 33% aujourd'hui en RDC. Est-ce que c'est toujours le même taux ou bien il y a évolution il y a quelques années?
Non, en fait, le 33%, c'est le rapport du CNPS de l'année 2020, qui donne en fait le rapport du pays, donne 33% en dons bénévoles de sang.
Et quelles sont les données actuelles?
Vous savez, je dis, c'est le rapport annuel de 2020.
De 2020.
Nous sommes en 2021. Bon, c'est le rapport qu'on fera à la fin de l'année.
Et donc, on peut considérer que le taux est encore faible?
Oui, il est encore très, très faible parce que, comme vous le savez, l'OMS demande aux pays membres de favoriser les dons bénévoles de sang. Et il a une recommandation qui dit au moins 80% de dons doivent provenir des donneurs bénévoles de sang. Si vous faites la différence, 80 et 33, c'est quand même énorme quand même.
La différence est vraiment énorme. Alors, qu'est-ce qui justifie cela, Paul Kabamba?
Bon, il y a beaucoup de facteurs, hein, parce qu'en fait, il y a des facteurs qui font obstacle, en fait, au don de sang. Vous avez dit, quand vous avez commencé l'émission, les croyances religieuses, les us et coutumes, il y a aussi l'insuffisance en communication. Donc, il y a des facteurs qui font obstacle à ce don de sang. Ici, en RDC, particulièrement.
Bien, on va accueillir Anaclé Mutombo de Kamina. Bonjour. Bonjour, Anaclé.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Moi, j'aimerais juste demander à l'invité est-ce qu'il n'y a pas moyen pour que, disons, des ministères sectoriels puissent au moins installer ou soit instaurer une équipe de sensibilisation. Parce que je l'ai aussi constaté, surtout dans le Mami, il y a disons, la population rurale. Là, pour savoir, ils sont en train de transmettre les 153 tenir compte à cause aussi des réels problèmes. Il n'y a pas moyen de mettre une équipe et pour commencer même à sensibiliser dans les milieux ruraux.
Sensibiliser dans les milieux ruraux sur le don bénévole de sang.
Oui, parce que ça pose de sérieux problèmes, ça pose vraiment. Nous, qui sommes ici, heureusement, nous sommes dans le chef lieu. Il y a des gens là qui vivent dans les milieux ruraux du territoire, c'est clair, ça pose de vrais problèmes.
Bien, merci. Serge Kalobia, vous êtes à Kindu, dans le Maniema. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi, et bonjour à l'invité.
Bien. Vous voulez participer à cette émission? Le standard est déjà ouvert. Appelez au 081 890 63 94. On vous écoute, Serge.
D'accord. Moi, je suis très flatté par cette émission, mais je voudrais seulement apporter ma contribution. La contribution, c'est que les bénévoles, les dons du sang là doivent se faire d'une personne un peu volontaire qui se sent capable et qui est aussi bien nourrie, parce qu'on peut donner le sang et qu'on n'est pas bien nourri, ça pose aussi un problème. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tout se passe parce que il n'y a pas une bonne vulgarisation. Les autorités qui sont censées nous informer par rapport à la bio, au bien fondé de donner le sang, ils ne nous disent rien. Mais ici, c'est nous, au Maniema, par exemple, nous avons une telle fondation qui sensibilise les gens pour donner bénévolement du sang. Il y a la fondation Maman Antonio Kindanda, je vois cette fondation-là, passer avec des micros, des radios, par-ci, par-là, en fait, d'inviter les gens à donner bénévolement les Malheureusement, je ne vois pas, je ne sais pas comment est-ce qu'ils procèdent, parce que vous arrivez, ils vous testent, vous êtes ici, c'est groupe O, si c'est A, automatiquement, ils vous soutirent les sang. Et sans même passer par des tests, si vous avez des maladies, vous avez ceci, vous avez patati, patata. C'est ça les dangers qu'il y a. Aussi, la question que je voulais poser à l'invité, et quand on donne bénévolement son sang, est-ce qu'on peut encore acheter ces sangs-là? Parce qu'on donne bénévolement les sangs, mais quand il y a un malade ou une malade qui arrive à l'hôpital, pratiquement, on a besoin de sang pour le perfuser. Et on va dans des boutiques et on va dire ça. On vous achète, on vous vend les sangs.
Ah bon, est-ce que c'est permis quand on donne bénévolement? Serge, oui. Là-bas, on vend les sangs dans des boutiques.
Non, bon, je ne sais pas comment on appelle ça dans des termes un peu pratiques, mais dans des hôpitaux où il y a les sangs stockés, oui. On va là-bas, on vous achète, on vous vend encore les sangs qu'on a donnés gratuitement. Est-ce que c'est prévu ou ce n'est pas prévu?
D'accord. Grégoire, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Jody. Je suis très heureux de vous entendre cet avant-midi dans cette émission. Ma question est la suivante. Lorsqu'on est en train de donner le sang bénévolement, quelles sont les procédures utilisées? Parce qu'on ne voit pas, on ne sent pas même la sensibilisation pour cette pratique-là dans des provinces. Il n'y a pas moyen qu'on instaure même une ligue ou un bureau qui est chargé de la sensibilisation des cédants, où on donne du sang bénévolement. Et lorsqu'on donne ce sang-là, lorsqu'il y a un malade qui arrive à l'hôpital, on dit qu'il n'y a pas du sang. Pourquoi ne pas recourir à ce bureau-là qui garde le sang bénévolement? Il y a toujours des problèmes qui se posent pendant que le malade arrive dans des hôpitaux où il n'y a pas de sang. Il faut qu'on cherche quelqu'un qui a le sang qui se correspond dans le même groupe. Pourquoi ne pas organiser ça avec beaucoup de sensibilisation dans des provinces pour qu'on puisse donner ce sang bénévolement? Merci.
Merci Grégoire de Kananga. Merci, monsieur Paul Kabamba, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. Mais quand j'ai suivi en fait les intervenants, je peux poser, il y a deux problèmes. En fait, il y a ceux-là qui posent un problème de vulgarisation, de sensibilisation, et d'autres posent le problème par rapport à l'achat, comme les mêmes l'expliquent, on vend le sang. Par rapport à la sensibilisation, en fait, le CNTS, le Programme National de Transfusion Sanguine, c'est une structure étatique. La direction est à Kinshasa, avec un centre national de transfusion sanguine qui fait ses activités de vulgarisation et autres. Mais dans chaque province, il y a ce qu'on appelle le CPTS, le centre provincial de transfusion sanguine, dans chaque chef-lieu de la province. Donc, avec d'abord les 10, mais avec la réforme, on est passé de 10 provinces à 26, il faut faire de sorte qu'il y ait ouverture dans ces 26 provinces. En fait, le problème se situe où? Parce que les personnes qui parlent disent que quand on va dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de sang. C'est parce qu'il n'y a pas de gens qui donnent le sang pour que les bénéficiaires, quand ils en auront besoin, puissent en trouver dans les hôpitaux. Bien sûr, il y a cette question de quand nous donnons le sang et les hôpitaux les vendent. Et c'est comme ça que le CNTS apporte un éclaircissement. On ne vend pas le sang. Moi, j'utilise toujours la simple formule qu'on avait eue à l'école primaire. Le prix d'achat est égal à prix, et le prix de vente est égal à prix d'achat plus bénéfice. Maintenant, nous allons vendre ce sang-là. On a acheté ce sang à combien? En fait, le frais que les gens, quand ils vont à l'hôpital pour chercher le sang, c'est une participation de la communauté. Les donneurs ont donné le sang gratuitement. L'hôpital ou bien les programmes ou le centre national a mis des moyens pour rendre cette unité de qualité, donc ils ne puissent pas poser des problèmes. Mais les gens qui viennent chercher ne peuvent pas aussi venir chercher gratuitement. Il faut qu'ils participent à cette activité. Et l'activité du don de sang n'est pas l'activité étatique. C'est une activité communautaire. Donc, c'est les communautés qui doivent se prendre en charge pour faire de sorte que dans leur structure, quand même il y a une banque de sang, il n'y a pas de donneurs bénévoles, mais qu'il y a une organisation qui a ce qu'on appelait le système, la stratégie des banques de sang debout. Donc, il y a des donneurs qu'on connaît, on les a déjà testés. Et quand il y a un problème de transfusion dans une structure, on peut les chercher pour venir donner le sang. Le plus grand problème, c'est que la communauté, la RDC, la population de la RDC, la communauté ne s'est pas encore appropriée de cette activité de don de sang. Parce qu'on dit non, ça, quand tu donnes le sang, si tu donnes, la personne reçoit le sang d'un voleur, il sera voleur. Quand j'ai le sang d'un féticheur, je peux devenir féticheur. En fait, il y a des justes coutumes et des fausses informations qui circulent. Bien sûr, ils ont raison. Il faut beaucoup vulgariser, il faut dire à la population, il faut donner la vraie information en fait à la population. Mais vous voyez que non, notre pays c'est un grand pays. Si on devait se retrouver partout en RDC, donc on doit compter sur les communautés dans lesquelles nous évoluons pour qu'ils nous aident à ce que leurs semblables qui ont besoin de ce sang-là puissent l'avoir en temps voulu parce qu'eux, ils ont donné. Voilà ce que je peux leur donner comme réponse à cette question.
Bien, Monsieur Paul, est-ce qu'aujourd'hui on peut évaluer le besoin en sang en République démocratique du Congo?
Bon, en fait, nous faisons le CNTS fait une évaluation théorique. Donc, le besoin en sang pour tous les pays, c'est la population multipliée par 0,75. Maintenant, si on prend la population de la RDC, bon, il y a des statistiques, les gens parlent de 86 millions, mais avec l'évolution, il y a des gens qui parlent de 100 millions. Donc, on est autour de 700 000 à 750 000 transfusions pour la République.
700 000 transfusions.
Oui.
Voilà, donc les
ça,
besoins.
Ça, c'est les besoins théoriques. Mmh. Hein, et par rapport à tout ce qu'il y a comme un rapport, nous avoisinons les 400 et quelques quand les structures rapportent quoi.
Donc, on peut dire que les besoins sont énormes en République démocratique du Congo.
Non, mais c'est l'énormité des besoins, c'est par rapport à l'énormité même du pays. Parce que la population, la croissance de la population de la RDC, elle fait que beaucoup de gens ont besoin de ça. Et c'est le tout beaucoup plus, ce sont les enfants de 0 à 59 mois qui ont besoin de ça avec la cause la plus répandue, c'est le paludisme, la malaria. Or, la RDC a une population jeune. Donc, c'est lui qui n'a beaucoup de jeunes ont besoin de cette transfusion sanguine.
Alors vous dites que la malaria cause beaucoup plus de besoins en sang, mais certains parlent aussi de la drépanocytose, ceux qui souffrent de l'anémie S.
Oui, en fait, la drépanocytose, les drépanocytes, si on voit par rapport au problème de l'existence de la drépanocytose, en RDC, nous avons 2% de drépanocytes. Mais si tu prends les enfants qui souffrent, les personnes qui souffrent de la malaria, c'est quelque 2%, c'est plus.
Voilà.
Donc la malaria, le microbe de la malaria, c'est parmi les microbes qui détruisent les globules rouges qui sont, qui est une composante sanguine.
Bien. Anaclé de Kamina a posé la question de savoir pourquoi il a l'impression que la sensibilisation n'est pas jusque-là efficace, surtout en milieu ruraux. Il veut savoir pourquoi. Et Anaclé veut savoir, Serge, pardon, qui pose la question de savoir qui peut aujourd'hui faire un don de sang.
Oui, effectivement, je l'ai dit, la sensibilisation pose un problème. Je l'ai dit, le Saint-Esprit ne peut pas être partout. Mais le Saint-Esprit a des représentations qui doivent rallonger, en fait, cette stratégie de sensibilisation par rapport aux communautaires. Bien sûr, vous imaginez, nous sommes ici à Kinshasa, quelqu'un qui pose un problème à Kakakokombe, par exemple. C'est vraiment très difficile que le Saint-Esprit arrive. Mais comme nous avons une représentation du Saint-Esprit au niveau de Sankourou, à Lodja, donc ce sont les gens de Lodja qui doivent aussi rallonger tout ça. Mais il pose toujours un problème. La sensibilisation, ce n'est pas beaucoup plus les techniciens comme prestataires qui doivent faire la sensibilisation, c'est les communautaires. Vous savez, quand vous formez une personne dans la sensibilisation, par exemple un chef coutumier ou bien un chef de district, il est plus écouté par ses compères que si nous venons de Kinshasa pour aller former à parler de la sensibilisation à Lodja. Donc, ça dit, je l'ai dit ici, c'est une activité communautaire. Donc, les communautés de base doivent se prendre en charge pour que. Et quand ils ont besoin, c'est qu'on puisse renforcer leur capacité. Là, le CNTS arrive. Par moment, il fait ça. Bon. Par rapport aux critères, qui peut donner le sang, en fait, on dit que toute personne en bonne santé, il y a des critères, mais toute personne en bonne santé, dont l'âge varie entre 18 et 60 ans, il doit donner pour la première fois. Mais s'il a déjà commencé à donner, il peut aller jusqu'à 65 ans. Il doit être en bonne santé, on doit savoir, il doit passer par un médecin, ou bien ce qu'on appelle un sélectionneur, qui doit le sélectionner pour voir si sur le plan santé, d'abord lui-même, a un problème ou n'en a pas, pour donner à un autre. Parce qu'il ne faut pas penser que non, quand quelqu'un vient donner son sang, même s'il vient donner son sang bénévolement, il faut les prendre seulement comme ça. Non, il y a un auditeur là qui a dit, parfois on prend le sang sans tester. Non, non. Il faut d'abord sélectionner la personne sur le plan clinique pour voir si cette personne-là ne peut pas avoir des problèmes après avoir donné le sang. Et en ce moment-là, si on décide qu'il remplit toutes les conditions pour donner le sang, alors on peut lui donner le sang et puis passer aux autres étapes de la transfusion. D'où on peut tester, on doit tester plutôt le sang pour savoir s'il n'y a pas des infections transmissibles par la transfusion sanguine. Voilà.
Bien, on va accueillir Pierrot Pagna de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capti.
Pierrot, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au don bénévole de sang?
Merci. Moi, personnellement, je connais, j'ai un témoignage par rapport à cette pratique-là. Moi, personnellement, quand nous sommes encore en troisième secondaire, j'espère entre 2005-2006, il y avait des équipes qui descendaient dans des écoles où on sensibilisait tous les élèves. On entrait dans des universités, on sensibilisait tous les étudiants. Il y avait des journées scientifiques qui nous disaient, qui nous enseignaient et qui nous donnaient de l'encouragement pour donner bénévolement les sangs. Mais cette façon de faire-là nous aidait d'abord à connaître nos statuts sérologiques. Mais je regrette comment cette stratégie n'a plus d'application, parce qu'auparavant, il y avait des moyens. Bien que après avoir prélevé le sang à quelqu'un, on faisait des tests là directement, et si on trouve que le sang est correct, on prélève le sang, on te donne des conseils, on te donne quelque chose. Mais nous avons constaté, parce que là, quand je vous parle, je suis du domaine, je suis d'abord infirmier de formation et expert de santé. Je dis, nous avons constaté, lorsque nous travaillons, la chose la plus dangereuse et qui a mis peut-être cette pratique-là douteuse, c'est la stigmatisation, je dis. Lorsque on part prélever le sang dans des écoles, lorsque on approche un groupe de jeunes, ils pensent directement sur leur statut sérologique. Et lorsqu'ils pensent sur leur statut sérologique, ils ont la peur, c'est-à-dire la peur de quand ira-t-on. C'est-à-dire, ils vont imaginer, lorsqu'on va m'annoncer que j'ai tellement...
Le VIH SIDA.
Voilà. Ce monsieur-là est découragé et vous constaterez que nos élèves ne sont pas disponibles pour donner le sang. Au moins, les adultes qui connaissent déjà leur statut, et ce sont les gens qui ont le courage. Maintenant, je voulais... là, c'est ce que moi, je vis.
D'accord.
Je voulais demander maintenant, oui, à cette structure qui est en train de suivre. Lorsque on faisait ça, on trouvait quand même... le taux de prévalence contre le VIH-SIDA, d'autres pathologies diminuées. Actuellement, là, je ne sais pas qu'est-ce qui motivait en fait qu'on finance sur cette pratique, et qu'est-ce qui a fait que ce financement puisse être arrêté.
D'accord,
et
merci.
La dernière pour chuter, je dis.
Oui.
Oui, je voulais encore demander pour chuter. Nous, actuellement ici à Lubumbashi, Les jeunes filles et jeunes garçons qui ne veulent pas donner du sang bénévolement, qu'est-ce que nous pouvons leur dire et qu'est-ce que nous pouvons attendre sur la formation d'abord de ceux-là qui n'ont pas peut-être l'ABC de la sensibilisation contre les maladies infectieuses. Je dis et je vous remercie.
Bien, Gentini, Gentil Oumanou, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question,
bonjour,
gentil? Merci de vous éloigner de votre radio. Vous pouvez réduire carrément le volume de votre radio, parce qu'on a un retour ici à l'antenne.
Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Je voulais demander à votre invité, quelqu'un qui donne les sang bénévolement, sans toutefois demander quelque chose. Mais ce jour, on voulait transférer les sang-là chez un patient receveur, le consoignant demande l'argent par rapport à la question. L'argent qu'on demande là intervient par rapport à quel motif, ma première question. Quand on voulait transférer quelqu'un, on fait une compatibilité malgré les groupes sanguins sont les mêmes, mais il y a aussi les examens qu'on fait de comme la compatibilité. Mais en fait, une receveur, quelqu'un a déposé son sang, il est parti. Mais s'il s'agit de verser les sang-là chez une autre personne, les examens de compatibilité là, comment on peut les faire tant que le donneur est déjà parti? Ma troisième question est de savoir quels sont les types d'examens qu'on fait avant de donner bénévolement les sang. Et l'hémoglobine dont le technicien de laboratoire accepte pour récupérer les sang chez un donneur est de combien?
Merci, Gentil Oumanou. Innocent Nkolisali, vous êtes à Bukavu, au sud Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour, cher journaliste.
Quelle est votre question par rapport au don bénévole de sang?
Oui, je disais que personnellement, je suis un donneur de sang bénévole, mais
apparemment, la situation de la gestion de cette ligne de donneurs de sang n'est pas bien gérée. Sinon, je vois toujours célébrer le jour des donneurs de sang. Je vois qu'il y a même un financement qui serait alloué pour ce programme des dons bénévoles de sang. Maintenant, la question est de savoir pourquoi toujours l'hôpital exige aux malades une caution avant de bénéficier de ces dons-là, alors que dans la facture, on doit toujours inclure même le frais qui sont dus à ces sangs qu'on a donnés aux malades. Et pourquoi toujours il n'y a pas vraiment un encadrement spécial pour les donneurs de sang afin de les encourager? Parce qu'il y aurait quand même des avantages liés au sein même du corps pour permettre à ces donneurs de continuer à comprendre que réellement donner les sangs, c'est sauver les vies. Mais aussi une autre question que je vous posais. Est-il vrai que si on continue à donner du sang, il y a toujours des conséquences néfastes sur la vie du donneur de sang, comme c'est la situation des cas de ceux qui sont surtout au village et qui disent que si on continue à donner du sang, parfois on peut tomber du vanissement, on peut avoir des hémorragies internes, on peut avoir des vertiges, on peut donc... C'est un peu flou, alors je voulais des éclaircissements là-dessus parce que ça fait un temps que je n'ai pas aussi donné de sang suite à des paroles là qui essayaient de me décourager.
Merci. Monsieur Paul Kabamba, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup, aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de questions.
Oui, il y a vraiment...
Il y a certaines questions qui sont résumées par rapport à ce que, quand on donne le sang bénévolement, comment quand on va à l'hôpital, quand les malades bénéficient.
Oui, il y a par exemple le premier intervenant Pierron Pagna a dit qu'il y avait une stratégie à l'époque d'aller prélever le sang dans les écoles. Pourquoi cela s'est arrêté? Et puis il a déploré un fait qu'il y a une stigmatisation. Bon, en fait, les élèves avaient peur de donner le sang parce que ils allaient découvrir leur statut sérologique.
En fait, il a raison. Je l'ai suivi religieusement. Il a raison. Par moment, il y a un problème de moyens qui se pose parce que la sensibilisation, elle coûte très cher. Mais c'est comme ça que nous, le CNTS, on utilise la stratégie de faire recrutement. C'est-à-dire quoi? La personne qui donne le sang, quand il rentre dans sa communauté, lui sensibilise sa communauté. Et quand il sensibilise la communauté va voir l'expérience de cette personne et il va adhérer, en tout cas, facilement. Et si c'est une autre personne qui vient parler de quelque chose, il n'a jamais vu, il n'a jamais expérimenté cet acte-là. C'est comme ça que la stratégie de faire recrutement, elle est toujours de mise que les synthèses utilisent. Mais quand il dit par rapport à la stigmatisation, ça c'est tout à fait quelque chose qui est correct. Quand nous allons, les gens, parmi les facteurs limitant le don de sang, il y a cette peur-là de se faire dépister. Mais quand on a expliqué très bien à la personne pourquoi est-ce qu'on dépiste, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça, et je crois que il y a certaines personnes qui se rallient facilement à cette activité-là de don de sang. Mais il y a, je crois, une personne qui a appelé aussi de, je ne sais pas de quelle province, elle a parlé par rapport au qui peut donner le sang, quelles sont les conditions pour donner le sang. Je vous ai dit ici, il y a un médecin, il y a un sélectionneur qui doit voir la personne qui est devant. Lui, s'il est en bonne santé, il doit avoir les critères, on a les critères pour... le don bénévole de sang. Et si la personne-là qui est en face de vous remplit les critères, il y a les critères cliniques et les critères biologiques, parce qu'il a demandé quel examen est-ce qu'on fait avant le don de sang. On dose d'abord l'hémoglobine pour savoir si la personne qui veut donner le sang en a assez pour donner à une autre. C'est comme ça qu'on fait toujours, on dose l'hémoglobine. Mais il y a aussi une autre personne qui a parlé par rapport aux tests qu'on réalise. En fait, il faut que les gens se disent, hein, la qualification, ce qu'on appelle la qualification biologique, c'est le test HIV, tous les tests qu'on fait avant de livrer cette unité de sang à un receveur, n'est pas la sécurité. La première barrière qu'on fait quand on fait les activités de don de sang, la première barrière, c'est la sensibilisation. Parce que quand vous sensibilisez la communauté, et que parmi la communauté, il y a de ces gens-là qui se disent ce qu'on vient de dire là, moi je pense que je ne suis pas là. Je dois faire ce qu'on appelle une auto-exclusion. Quand déjà quelqu'un, les gens s'auto-exclut dans la sensibilisation, c'est déjà la première barrière. Vous dépassez cette barrière-là, vous venez maintenant à la sélection. Maintenant, c'est là où je vous avais dit qu'il y a des critères cliniques et biologiques pour protéger la personne qui doit donner le sang. Maintenant, pendant qu'on fait la sélection, on doit demander aussi des informations chez les donneurs pour faire de sorte que cette unité de sang, quand on va la prélever, que ça ne puisse pas créer un préjudice chez les réfèvres. Donc c'est une chaîne d'activité, comme nous-mêmes nous le disons, la transfusion sanguine, c'est le résultat d'une chaîne d'activité. Il y a beaucoup d'activités qui se suivent et qui sont liées, qui arrivent, qui partent de quelque part jusqu'au réfèvre et qui va en fait bénéficier de cette unité de...
Monsieur Paul Kabamba, est-ce qu'on peut comprendre par là qu'il y a, des catégories des gens qui ne peuvent pas donner le sang?
Mais bien sûr. Je dis bien, si les donneurs qui doivent donner le sang doivent être d'abord lui-même en bonne santé. Si tu viens donner le sang et que tu es hypertendu, on ne le prélève pas. Si tu dois donner le sang, tu as une maladie qui peut être transmissible de par toi-même si tu le connais, on ne te prélève pas. Il y a des critères qui sont là. Une personne ne peut pas donner. Et c'est le sélectionneur qui est là, doit, en parlant avec la personne, le donneur potentiel, il doit identifier qu'est-ce qui peut amener à ce qu'il puisse écarter la personne qui est devant lui pour que elle ne puisse pas avoir des préjudices à la personne qui va recevoir ce sang. Voilà.
Bien. Et puis, il y a Innocent de Bukavu qui donnait le sang à un moment, mais il a arrêté parce que il s'est dit qu'il faudrait au moins qu'il y ait quelques avantages. Par exemple, aller se faire soigner gratuitement, je donne mon sang, il faudrait qu'il y ait aussi quelques avantages à côté. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet?
Oui, M. Innocent a raison. En fait, ici au CNTS, nous avons ce qu'on appelle, nous appelons les associations des donneurs. Les associations des donneurs sont en fait des donneurs qui donnent le sang et qui s'unissent pour faire en fait un regroupement où ils peuvent peut-être partager des expériences par rapport au don de sang. Mais on avait fait, ça existe, mais c'est la vulgarisation peut-être qui pose problème, la charte du donneur. Les donneurs, quand ils donnent, on a bien dit donner bénévolement. Je vous ai dit ici les critères et les principes éthiques du don bénévole, c'est le bénévolat, le volontariat, l'altruisme, la responsabilité. Donc il faut remplir tous ces principes éthiques pour que qu'il n'y ait pas comme une réclamation, quoi. Parce que si le don bénévole, quand on donne, on ne sait pas à qui on donne. Parce que si on doit réclamer, c'est-à-dire les gens qui bénéficient de ça doivent vous payer. Mais ce qu'on évite quand on fait le don bénévole avec les principes éthiques, c'est que la personne qui donne le sang ne peut pas connaître la personne qui va bénéficier de ce sang-là. Mais la charte donneur offre certains avantages. Il y a les devoirs, on dit que c'est une charte de droits et devoirs. Donc le donneur a des droits, donc c'est la charte qui a dit ça, donc c'est vulgarisé, c'est la Fédération nationale parce qu'elle existe, la Fédération nationale des donneurs bénévoles de sang, de vulgariser cette charte, et quand quelqu'un donne, voici les avantages que la personne peut bénéficier. Mais ces avantages-là, ça pose aussi problème. On dit les avantages parce que c'est la famille de premier degré. Quand on dit premier degré, c'est-à-dire le papa du donneur, la maman du donneur, s'il est marié, le papa et la maman de la femme et ses enfants. Mais ce qu'on remarque, c'est que les gens pensent que nous, quand on dit ceux qui ont, bon, ça c'est utilisé en lingala, comme on l'a dit, ceux qui ont fait ce maquila, famille n'a eu nyonso, parce qu'il y a un hôpital nyonso, va bénéficier maquila en gratuitement. Non, il faut faire attention. Parce que ce n'est pas dit que non, quand tu donnes le sang, c'est toute la famille élargie, juste que je ne sais pas à qui, il faut bénéficier. Mais quand toi-même, d'abord, c'est la personne qui doit bénéficier le sang gratuitement, c'est la personne qui a donné le sang. Mais on rallonge un peu cet avantage-là pour aller jusqu'à la famille du premier degré et on les donne. Mais il se pose des problèmes par rapport aux structures de prise en charge. Il peut arriver que vous arrivez dans un hôpital, nous ici, on les dit beaucoup. Quelqu'un qui est là, lui, il pense que non, tu dois payer seulement. Maintenant, ça sera maintenant l'attitude de la personne du prestataire envers les donneurs, il va les faire payer. Mais souvent, quand nous allons pour vérifier, vous allez voir que non, ce n'était pas en fait recommandé de faire ça. Souvent, on récupère certains argent, on remet aux donneurs. Donc, c'est en fait un problème d'attitude de chacun, soit les donneurs, soit le prestataire de soins qui reçoit les donneurs. Il a une autre vision, il l'exige. Et puis, il faut dire au donneur, il y a une différence entre le coût de cession d'une poche de sang et le prix d'un acte transitionnel. C'est là où les gens confondent beaucoup. Quand tu vas à un hôpital, on te fixe un prix et on te fait une facture, il faut bien lire. C'est-à-dire que c'est la facture de la transfusion. La transfusion, ce n'est pas la poche. La transfusion, c'est-à-dire que les personnes qui ont transfusé, donc les infirmiers, les médecins, il y a ce qu'on appelle des honoraires par rapport aux actes posés dans les hôpitaux. Ça n'a rien à voir avec le coût de cession. Mais la poche elle-même, normalement, elle ne peut pas coûter très cher. C'est beaucoup plus les actes transfusionnels qui se font dans les hôpitaux qui font assez payer pour qu'on a même exorbitant dans le prix qu'on fixe par rapport à la transfusion. Voilà.
Bien, je vais revenir sur d'autres questions. Le temps d'accueillir Kachai de Kanyoka. Nous parlons aujourd'hui de l'importance du don bénévole de sang, des questions et préoccupations. Appelez-nous au 081 890 63 94.
Vous nous écoutez déjà en FM sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Pourquoi est-il important de faire un don bénévole de sang? Kachai, vous êtes à Kanyuka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Important, comme vous l'avez souligné, de donner le sang pour sauver des vies. Mais, à la fois, celui qui donne le sang, il perd le sang pour sauver la vie, et la structure médicale vend le sang. Je ne sais pas si tout comprendre. Elle est là-dessus. Mais il peut encore revenir. Dans leur réunion avec les responsables des structures médicales, ils ne peuvent pas surtout les interpeller par rapport à cela. Quand quelqu'un donne le sang pour sauver la vie et que la structure cherche maintenant à vendre à plus cher d'ailleurs, à très cher, le sang donné gratuitement par quelqu'un d'autre, est-ce que nous pourrons dire que la structure peut sauver la vie, ou soit le sang est donné pour commercer avec, parce que ça va aider la structure à pouvoir mettre en vente et on achète très cher, alors à ce moment-là, on sauve des vies. Monsieur Jody, celui qui donne le sang ici à Kanyoka, qu'est-ce que j'ai constaté? Il donne le sang, après on lui dit de prendre un verre de chichampa.
Un verre de chichampa?
Oui, un verre là plein.
Qui lui dit de prendre ce verre de chichampa?
Les corps soignants, les corps médicaux. En ma présence, j'étais un jour avec un frère qui était malade. Il avait perdu le sang, il faudrait le transfuser. Alors, on cherche quelqu'un, le membre de la famille d'ailleurs, qui est venu, il a donné bénévolement le sang. Monsieur, je dis, nous avons payé ce sang-là, le sang donné par un membre de la famille. Mais pour que la transfusion ait lieu, il faut payer. On a payé. Ce n'est pas des affirmations gratuites. C'est vrai que l'invité parle, mais il y a des choses qui se passent que nous nous dénonçons maintenant là. Et on lui dit, prends le verre de chichampa. C'est moi d'ailleurs qui était parti plus vite pour acheter le verre de chichampa. Parce que lui disait que je sens maintenant des vertiges.
Le chichampa, c'est la boisson indigène à forte dose d'alcool.
Mmh. Oui, boisson alcoolisée préparée à l'aide de maïs et des épluchures de manioc.
Et le chichampa fait quoi? Ça aide à reprendre le sang, oui, rapidement, à restaurer, oui, la quantité de sang, oui, perdu.
On lui a dit que quand tu prends le verre de chichampa, tu reprends directement d'autres quantités de sang en une minute au lieu d'aller chercher soit les bateaux, hein, le sucré, par contre, ou soit prendre des œufs et le lait. Le chichampa, c'est plus vite.
C'est plus efficace.
D'ailleurs, eux disaient que c'est très efficace. Quand tu prends directement, tu ne vas pas encore sentir des vertiges. Et on a fait. Moi, je suis allé acheter. J'ai lié tout. Il a pris un verre de chichampa, de l'alcool là. Et quelques minutes après, il nous a dit, bon, comme ça, on peut aller à la maison. Et nous avons laissé celui qui était malade au lit des malades. C'est ainsi que je voulais demander à l'invité. Non seulement que le sang est donné par un donneur bénévole, mais la structure met ce sang-là en vente. Au cas
bien, d'accord. On a compris votre préoccupation. Plusieurs personnes sont revenues également là-dessus. Merci. Charité, vous êtes à Anjougou. Bonjour. Charité, vous êtes à Anjougou, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi, Charles Ali.
Oui, quelle est votre question, Charité?
Bon, je suis à Nyaraba, précisément à Anjougou. Je voulais savoir, par rapport à donneur de sang bénévole, vous voyez, la personne ici le donne le sang, la personne ici le donne le sang, et par après, il y a des programmes qu'on le donne notamment, il faut prendre de tels aliments, parce qu'il a donné le sang bénévolement. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que le gouvernement a prévu quelque chose pour le donneur de sang bénévolement, parce que ça joue sur l'organisme.
Bien, merci. Monsieur Kabamba, vous avez la parole.
Oui, ok, merci, monsieur Jordi. En fait, je crois l'avant-dernier auditeur, il a parlé de Tchitchan. Vous avez me demandé de Tchitchan, parce que c'est quoi? En fait, ce qu'on appelle ça, c'est ça, à Guéné, non?
Oui, c'est ça, l'alcool indigène, là, oui.
L'alcool indigène, voilà. Mais moi, je pense que ça, c'est une information que je viens de recevoir maintenant, mais je crois que je vous ai dit, c'est l'attitude du praticien aussi, parfois, nous met dans des problèmes. Quelqu'un qui a fait la médecine, qui a pas dire ça à un donneur. Parce qu'il sait, c'est que, et il faut savoir que, je vous ai dit ici que, il faut renforcer les capacités du personnel soignant. Même si on n'a pas, le CNPS n'est pas venu, mais ça, c'est une information que moi, je ne sais pas expliquer par rapport au Tchitchampa. Mais ce qu'on dit souvent, c'est que c'est quand un donneur donne, il faut qu'il prenne un peu de l'eau. Parce que le prélèvement, ça diminue quelque chose, en fait, la quantité sur le plan, la quantité de tout le corps, ça diminue. Mais quand il prend de l'eau, ça, le corps, Dieu a fait, c'est que dans les 6 heures qui suivent après votre prélèvement, la quantité revient à la normale. Mais maintenant, quand on dit, c'est que vous avez dit vous-même que cette question est revenue plusieurs fois, quand on doit payer après avoir donné le sang, je l'explique et je l'expliquerai toujours de la même façon. Payer quand on donne l'argent dans une structure normalement, ce n'est pas pour la poche de sang. C'est-à-dire que c'est la contribution de la population par rapport à ce que la structure a fait en prélevant le sang, en les qualifiant et les rendre disponibles pour les personnes qui viennent chercher. Et ce prix-là, je l'explique encore une fois, les coûts de cession souvent ne varient pas beaucoup. C'est le prix de la transfusion qui varie. Ça, c'est une différence que les gens doivent avoir à l'esprit. Le coût de cession, c'est quand vous donnez la poche de sang. Mais la transfusion dépend de la structure, des prix de chaque structure. Quand vous pouvez, il y a des structures qui font une consultation à 2000, à 5000. Mais la même consultation, vous pouvez aller dans une autre structure, c'est 30 dollars. Donc, la structure des prix de chaque structure fait de sorte qu'il y ait des différences par rapport au prix d'une transfusion, qui est différente des coûts de cession de la poche de sang. Et ça, c'est toute l'information que je peux donner.
Bien. Alors, pour ceux-là qui pensent que si je donne le sang, je peux tomber, vous avez des vertiges, vous pouvez même à mourir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Je l'ai dit, quand quelqu'un vient donner le sang, parce que on dit la sécurité transfusionnelle, c'est la protection du donneur et du receveur. Donc, le donneur qui vient donner le sang, le sélectionneur et la personne qui doit sélectionner doit se couvrir de tout ce qu'il y a comme sécurité pour ne pas faire du mal à ce donneur-là. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient, on sait qu'on va se prélever parce qu'il a un taux qui est acceptable, parce qu'il a un poids qui peut permettre à ce qu'on prélève. C'est comme ça que les gens voient que d'autres personnes, on prélève 250 millilitres, chez d'autres, on prélève 450. C'est parce que la personne qui sélectionne peut dire avec tel poids, je vais donner prélever comme ça, avec tel poids, je vais donner telle quantité. Donc, nous devons nous entourer de toute sécurité pour les donneurs avant de faire cette unité de sang-là. Si les donneurs, en faisant un examen, vous identifiez quelque chose qui peut porter préjudice quand vous allez prendre le sang, alors il ne faut pas prendre. Parce qu'il faut le protéger d'abord, lui.
D'accord.
Oui, c'est comme ça.
Bien, on va accueillir Alexis de Kinshasa et Gilbert. On va terminer avec Gilbert Lokwa de Mbandaka. Alexis, bonjour.
Bonjour à Dio Capi et bonjour à l'invité. Alexis Bambé depuis Kinshasa.
On vous écoute, Alexis.
Oui, je voulais un peu présenter certaines suggestions. Moi, je n'ai pas assez de questions, mais j'ai des suggestions à présenter aussi, à présenter à l'invité.
Oui.
En fait, je me rappelle en 2016, j'étais en troisième graduat en sciences biomédicales. Je suis étudiant en doctorat en médecine. Je faisais mon stage à Saint-Joseph. J'avais vite compris, il y a un moment, ils ont organisé des campagnes de sensibilisation des donneurs bénévoles de sang. Et à cette campagne-là, ils pouvaient adjoindre, en fait, certains éléments du genre de Varese. Ils avaient organisé, en fait, de compétitions, de matchs de football. Avec cette logique-là, j'avais vite compris que l'homme congolais ne peut donner rien pour rien. Alors, il y a aussi un problème de sensibilisation, comme l'invité lui-même avait parlé. Il y a des quartiers ici à Kinshasa, je peux citer certains quartiers. Quand vous êtes à Kingaboa, il y a des quartiers Kawele, Pagadjouma, mais ces gens-là n'ont même pas l'accès à l'information. Ces gens-là peuvent avoir, ils peuvent avoir beaucoup des donneurs bénévoles de l'autre côté, mais ils ne sont pas sensibilisés, ils n'ont pas une communication de l'autre côté. Et Dédé, il y a un problème. Si le gouvernement, le ministère de la Santé, l'institution de la Santé, s'ils pouvaient mettre, ils se disent, aujourd'hui nous avons les donneurs bénévoles, et si on se disait, bon, hier, ces donneurs bénévoles ont même adjoint une carte peut-être dans des hôpitaux publics. Vous allez voir que les donneurs vont augmenter avec les dépenses.
Pardon, vous avez dit si on fait quoi exactement?
Si on se disait, par exemple, nous avons le sensibilisateur. Alors nous mettons en jeu, nous disons, si quelqu'un donne le sang bénévolement, il a peut-être juste une carte de visite. Par exemple, à l'hôpital Mama Yemo, juste pour la visite. Donc, quand il va voir un médecin, il ne paye rien parce qu'il est donneur bénévole. Vous allez voir que ça va augmenter. Au début de l'émission, l'invité a dit, il a soulevé les cas de le prix d'achat. Il a dit bénéfice, le bénéfice égale prix d'achat moins prix de vente, si je me rappelle bien. Alors, et que ces donneurs bénévoles-là, qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est vrai qu'ils perdent quelque chose sur le plan...
Bien, d'accord. Merci Alexis, on n'a plus de temps, on a compris. Si on peut, par exemple, les motiver, on dit, vous donnez les sang, vous avez une consultation gratuite auprès du médecin, et cela va motiver à d'avoir beaucoup plus de donneurs bénévoles. Gilbert Lecoix, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Bonjour la radio, Kavi, je salue aussi l'invité.
Rapidement, Gilbert, on est presque à la fin. Quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup. Je salue d'abord les interventions de mes prédécesseurs qui ont quand même ramassé tout ce que je voudrais dire. Mais moi, je dois aborder sur les plats de la légalité. Parce que,
en quelques secondes, que nous... en quelques secondes rapidement.
Oui, qu'est-ce qu'il a prévu la loi? La loi a prévu quoi? Lorsque les gens qui sont commis à cet exercice-là, donc les personnels qui sont censés prélever les sangs, lorsque les gens-là se livrent dans des pratiques où, je donne un exemple, quelqu'un qui est allé, on lui a prélevé les sangs, voulais-je dire, mais après, ces gens-là, donc en fait, je voulais donner un exemple concret parce que l'État me fait défaut, mais je voulais juste donner un exemple parce que moi-même,
Gilbert, jusque-là, vous n'avez pas donné l'exemple.
Oui, je voulais donc.
Bien. Merci. Oh, désolé, on n'a plus beaucoup de temps. Monsieur Paul Kabamba, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs qui ont posé des questions?
Oui, je crois que le premier, il a fait des propositions. C'est tout à fait quelque chose qui est correct. Mais, monsieur Gilbert, si j'ai bien entendu, vous voulez parler de la légalité. Une loi sur la transfusion, quelque chose comme ça, il n'avait même pas terminé son idée. Mmh. Mais, à ce propos, le CNP est déjà dans les processus pour l'élaboration de la loi sur la transfusion sanguine. Mais il y a des articles qui sont dans la Constitution, mais ici, on va beaucoup plus étoffer par rapport, à d'autres catégories comme les donneurs bénévoles pour avoir moins de problèmes, peut-être, à l'avenir. Voilà ce que je peux dire.
Bien. Donc, il y a Alexis qui a proposé, par exemple, qu'il y ait des mesures incitatives. On vous dit, vous donnez le sang.
Nous, ici, au CNTS, quand un donneur est malade, il se présente ici au CNTS, on les consulte gratuitement. Mais avant, on avait même, quand les délégués pharmaceutiques nous visitaient, ils nous donnaient quelques produits qu'on gardait. Quand un donneur a un problème, on prescrit le médicament qui est chez nous et il le prend gratuitement. Donc, ici au CNTS, mais bien sûr, il y a d'autres hôpitaux qui le font aussi. Tu vas, tu présentes. Je vous ai dit à un moment donné qu'il y a aussi un problème des attitudes des prestataires qui, par moment, ils sont à côté de la plaque quand ils font leurs interventions auprès des donneurs bénévoles. Voilà.
Bien. Mais à ceux-là qui pensent que si on vous transfuse le sang d'un voleur, vous devenez voleur, le sang d'un menteur, d'un sorcier, et c'est fini, vous devenez sorcier.
Non, ça, c'est une mauvaise information. Ils n'ont pas la vraie information. C'est faux.
Voilà, c'est faux. Merci, Monsieur Paul Kabamba. Je rappelle que vous êtes chef de division, chargé de la formation, recherche et développement au Centre national des transfusions sanguines. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée, à la prochaine.
Merci, Monsieur Jourdi.
Jackpot, c'est Tchatcho. Angara kuvana nga chéri lelo bumi libalo yo oye ningi saki bango ma yo moto venga kina lobi kumbu yisengo lelo moto nisenga wa mawa na cimetière bato nyonso tuba kufa na maladi moko te ikeseni moko ezili koyebana amoro na yo jamais kozala wangai Atara sengi na mungongo yangyawu Tope nangangi na lulaka yankoye Nato nanga jame koko ma realite Maso esili koye bana Amore yo jame kozala wande Atara sengi na mungongo yangyawu Tope nangangi na lulaka yankoye Nato nanga jame koko ma realite Kasi esika probleme ezali Yangai motema lobi na nyuite Ekoya kokoko tiko ima yo Mboi mipesa na songo to bakala Na mokili mwese bimili susu Ngai na motema veye esili kakate Ona moto abimanga mboi manaye Atika ngai kini Para que esquece Moto akufaka na mabete Esika yanga ima buku ezate Nezoto na ya mobi mezale Anzambe mpo Ninye sale mambu Mwana moto mbo susu akonga ona mposo Na makila na mondi moroko la magi Oto kolinga alinga yote Na monangu sebuye Ngaratuna na yawe Pokwa tucho sebuye Oto kolinga alinga yote Na monangu sebuye Ngaratuna na yawe Pokwa tucho sebuye Na hongu wa jamugwale Na shege
Et oui, c'est sur cette note musicale, fidèles auditeurs, que nous mettons un terme à ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service de ce jour. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes en RDC et même en dehors de nos frontières. Merci à tous les internautes qui ont réagi dans cette émission. Au Capi Service, Jean-Claude Ciala a assuré la mise en onde de Marcel Ngombo, a assuré la coordination de cette émission réalisée par Tati Mapoukou. Je dis Daniel Kachama au micro. Tout le plaisir était pour nous de vous servir et se brancher sur la fréquence de la paix. Et à la prochaine.